ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
7, 6.
Commencing countdown, engines on.
3, 2.
Check ignition and may God's love be with you.
Le 20 juillet 1969, il y a presque 50 ans, Neil Armstrong et Buzz Aldrin se posaient sur la Lune. Pour commémorer ce petit pas pour l'homme et ce grand pas pour l'humanité, les élèves de l'Astroclub du lycée Saint-Gabriel ont préparé pour vous une émission spéciale en hommage à la Lune. Pour commencer, Alicia et Margot ont imaginé le futur village lunaire dans une radio-fiction intitulée « Allô la Lune, ici la Terre ». Ensuite, Clément s'est mis dans la tête de Michael Collins, le troisième homme de la mission Apollo 11, resté en orbite pendant que Neil Armstrong et Buzz Aldrin foulaient la surface de la Lune. Enfin, Adam va débunker les différentes théories du complot et nous expliquer que l'on a vraiment été sur la Lune, si si. Et pour finir, Marie-Flora va nous présenter le journal de bord d'une jeune ado qui emménage sur une base lunaire.
Allô ?
C'est moi, Sophia. Je viens d'arriver dans le dôme.
Alors, c'est comment la Lune ?
C'est énorme. Le dôme a été construit dans la mer de la Tranquillité et je dois dire qu'elle porte bien son nom. En dehors du dôme, c'est un désert de sable blanc, sans vie et au calme presque effrayant. Et sinon, comment vont mes petits-neveux ?
Ils sont super fiers de raconter à leurs camarades que leur chère tante est partie habiter sur la Lune. Mais sinon, nous allons bien. Après tout, cela fait que quelques jours que tu es parti. Et le manque ne se ressent pas encore. Ici, la vie continue. Toutes les radios et les télévisions parlent des nouveaux scientifiques arrivés sur la Lune en insistant sur les nouveaux progrès qui pourraient être réalisés grâce à vous tous. Tu es bien installé ?
Oui, ne t'inquiète pas. Nous avons été bien accueillis par les autres et nous avons aménagé dans une maison plutôt moderne par rapport à celle sur Terre. Le responsable du dôme nous a fait une visite et je dois avouer qu'on pourrait se croire dans un petit paradis.
Décris-moi donc ce petit paradis. On en a tellement entendu parler à la télé sans jamais en avoir de photos.
Eh bien, quand on rentre dans le dôme, on peut apercevoir à notre gauche qu'il y a un espace réservé aux habitations et à l'école dirigée par Bertrand pour les enfants qui sont venus avec leurs parents scientifiques. Un peu plus loin, on a l'espace des récoltes tenu par les botanistes et les petits commerces par des bénévoles. Il y a aussi une zone pour les laboratoires qui vont sûrement s'agrandir au prochain départ de la Terre. D'ailleurs, vous avez la date de votre départ ?
Non, pas encore. Ils nous ont dit bientôt en tout cas. Nos valises sont déjà prêtes si on est prévenu au dernier moment. En tout cas, on a tous hâte. Tu as des nouvelles sur la construction de notre maison ?
Je sais pas. Je te rappelle que je suis arrivée il y a peu de temps. J'ai pas eu le temps de regarder les constructions en cours.
Comment va ton mari Bertrand ?
Il va bien. Il est en ce moment en train de donner cours aux enfants dans l'école. Je suis d'ailleurs allée la voir et elle est vraiment très bien aménagée et les enfants peuvent suivre le même programme que sur Terre.
C'est quoi ce bruit ? Sophia ? Sophia ! Alors qu'Alberta essaye de joindre Sophia, sa sœur, elle est loin d'imaginer l'horreur qui se déroule à l'autre bout du fil. Quelques heures plus tard, alors qu'Alberta panique au sujet de sa sœur qui ne répond toujours pas, un flash spécial interrompt le programme télé.
Flash spécial. Un grave accident vient de se produire sur la Lune. Les satellites viennent de nous faire parvenir les images. Il semblerait qu'un astéroïde soit passé à travers le dôme, détruisant tout le système apportant l'oxygène. Actuellement, toute communication est impossible et nous ne savons pas s'il y a eu des victimes. Nous vous communiquerons très prochainement la suite des événements.
Mes confrères Neil Armstrong et Buzz Aldrin sont à présent sur la Lune. Dire cela paraît fou, je crois que je ne mesure pas l'ampleur de notre réussite. Enfin, le plus important, c'est de retourner sur Terre. Et je crois que je ne mesure également pas non plus à quel point mon rôle est important, sans vouloir me vanter, bien évidemment. Non mais c'est vrai, après tout, ils ne pourront pas rentrer chez eux en taxi s'il m'arrive quelque chose. Cela fait maintenant 20 minutes que mes coéquipiers sont sur la Lune. L'orbite de mon vaisseau semble rester stable, et les conditions sont optimales. Et heureusement d'ailleurs, car je m'apprête à passer du côté caché de la Lune. Et je mentirais si je disais que ce moment ne m'effraie pas un petit peu. De plus, je suis sûr que, du moins si la suite de la mission se déroule comme prévu, mon nom ne sera pas celui que l'on retiendra le plus. Bon, certes, cela n'a pas vraiment d'importance, mais je suis quand même le pilier de cette mission. Je pense que l'on peut dire que je suis officiellement l'homme le plus solitaire de la Terre. D'ailleurs, je suis plus dessus maintenant. Ce silence assourdissant devient presque pénible à écouter. En plus, ma radio qui était à présent ma seule amie vient juste de se couper. Super. Mais cependant, j'apprécie. J'apprécie vraiment. Je profite de ce moment de tranquillité. C'est vrai, un tel moment de paix ne se reproduira sans doute jamais dans ma vie. Tout est si calme. C'est la première fois que je me sens autant coupé du monde. Et la dernière fois, je suppose. Armstrong et Aldrin sont de nouveau avec moi dans le vaisseau. Et c'est bon de se retrouver. Cependant, je suis déçu, ils n'ont apparemment pas vu d'alien. Le monde se souviendra d'eux, c'est sûr. Ce sont les premiers à avoir marché sur la Lune. En plus, ils n'arrêtent pas de raconter à quel point, à ce qui paraît, c'est génial de faire des bonds de 10 mètres sur les rochers. Mais bon, cependant, eux, ils ne connaîtront jamais le bonheur de l'accalmie.
Guerre froide qui donc a duré de 1948 jusqu'en 1991 et qui opposa durant ces longues années le camp de l'URSS à celui des États-Unis, tout ce qui pouvait faire gagner une des deux grandes puissances dans à peu près n'importe quel domaine en valait le coup. La guerre froide suit la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, à cause des séquelles que le monde a subies, il est hors de question de se refaire affronter immédiatement capitalistes et communistes. Cependant, les deux camps font une guerre, déjà parce que la majeure partie de l'énergie dépensée par les deux camps est utilisée dans l'armement et dans l'affrontement avec l'autre camp, notamment dans les domaines sportifs, technologiques et spatiaux. La course à l'espace était notamment un des domaines dans lesquels les deux parties s'investissaient le plus. Et même si l'URSS avait au début une longueur d'avance avec l'envoi de Yuri Gagarin dans l'espace, c'est à la fin les États-Unis qui ont incontestablement pris le dessus en ayant, il y a maintenant 50 ans, emmené des hommes sur la Lune. Cependant, la réalité de cet exploit aura été contestée de nombreuses fois au cours de l'histoire. Aujourd'hui, on va voir si des fois ces accusations sont justes ou si c'est parfois que des conneries. Premièrement, pourquoi est-ce qu'on voit le drapeau américain flotter sur les photos d'Apollo ? La question, d'abord, pourrait sembler bizarre. Mais quand on y réfléchit, c'est vrai que sur Terre, quand on voit un drapeau voler au vent, c'est qu'il y a, du vent. Le truc, c'est qu'il n'y a pas d'air sur la Lune, et donc, il n'y a pas non plus de vent. Alors, logiquement, pourquoi, s'il n'y a pas de vent, s'il n'y a pas de vent, c'est qu'il n'y a pas de drapeau qui peut voler, mais un tissu tout mou au bout d'un piqué. Mais pourquoi alors sur les photos le drapeau a l'air de voler ? Ça veut forcément dire que les images ont été prises sur Terre. Eh bien, c'est juste une question d'éthique. Dans cette époque, où c'est le concours de celui qui pisse le plus loin entre l'URSS et les États-Unis, tout est prétexte pour narguer l'adversaire. Ainsi, donner l'impression d'un drapeau en bonne santé qui flotte fièrement au vent a plus de panache que du linge qu'on aurait tendu un jour d'été sans vent. Et c'est même le cas sur la Lune. C'est pour ça que les Américains ils ont décidé de froisser le drapeau, qui est en fait constitué de petits fils de fer pour faire, en gros, tenir le froissement, et ils l'ont fait pour lui donner l'impression de voler au vent et pour que l'aigle américain puisse mieux narguer les communistes. Finalement, cette guerre, ça devenait presque de la paranoïa. Pourquoi on ne voit pas d'étoiles dans le ciel lunaire? Sur toutes les photos prises par Aldrin et Armstrong, on ne voit aucune étoile. Normalement, il fait nuit sur la Lune, alors pourquoi on n'en voit pas puisqu'il n'y a pas de ciel pour cacher les étoiles? Alors, cette question est un peu moins légitime que la première, parce que c'est totalement faux de dire qu'il fait que nuit sur la Lune. Quand on voit une partie de la Lune éclairée, ça veut dire qu'il fait jour dessus, que cette face est éclairée par le Soleil. Quand Apollo allunissait, c'était toujours sur une face en jour. Et donc, si on ne voit pas les étoiles, c'est à cause de la lumière du Soleil, qui les masque comme si on était en plein jour, mais sur la Terre. Pourquoi le vaisseau, en atterrissant, ne fait aucune trace sur les photos? Quand on voit des astronautes marcher sur la Lune, ils font des énormes empreintes de pas sur le sol. Pourquoi dans ce cas-là, la fusée en atterrissant ne fait absolument aucune trace alors que logiquement, un atterrissage est plus violent qu'une empreinte de pas? C'est vrai que cette question peut paraître bizarre, mais la NASA a cependant dévoilé que les fusées qui décollent ou atterrissent avec des flammes et avec violence, c'est du pipeau. Ensuite, on peut dire que la Lune est constituée d'une légère couche de poussière, de quelques centimètres, de roche. C'est la raison pour laquelle les astronautes ne laissent pas dans... Enfin, désolé. C'est la raison pour laquelle les astronautes se laissent leur empreinte, un peu comme sur une plage. Et si le vaisseau n'a pas laissé de traces, c'est parce qu'il ne peut pas y avoir de souffle lors de l'atterrissage puisqu'il n'y a pas d'air sur la Lune. Donc, pas de marque d'atterrissage.
Mars 2039, 8 jours avant le départ. 14h36, honnêtement, c'est la découverte totale. J'y ai appris il y a un mois que papa, maman et moi partons habiter sur la Lune. Et à 8 jours de l'embarcation, je commence à me poser des questions. Maman me dit que j'aurai les réponses en temps et en heure, mais je veux savoir, moi, comment ça va se passer là-haut? Comment on va y aller? Comment on va manger? Comment on va dormir? Comment on va suivre les cours? Tant de questions et si peu de réponses. J'en ai marre. Je m'appelle Lily Forestine, j'ai 15 ans et je compte bientôt marquer ici parce que ce que je vis est unique. 4 mars 2039 ou 6 jours avant le départ. 9h27. On m'a fait passer des tests aujourd'hui pour que je supporte le vol. C'était assez sympa à faire et drôle. L'homme qui s'occupait de moi était assez jeune et très professionnel. Il me faisait rire. Papa m'a dit que tous les hommes et les femmes que je vais voir sont des personnes très importantes qui doivent garder leur sérieux. Je sais qu'ils ont fait des grandes études, j'aimerais leur ressembler et faire la même chose. Aujourd'hui, je dois voir un médecin. Apparemment, c'est pour voir si je ne risque rien là-haut. J'espère pouvoir lui poser des questions. 18h30. Je viens de rentrer chez moi, le médecin était une femme très gentille. Je lui ai posé des questions et elle a répondu à presque tout. Elle a l'air passionnée par ce qu'elle fait. Ça fait vraiment plaisir. Elle m'a dit que le voyage devrait durer 2 jours. J'ai vraiment hâte. 8 mars 2039, ou 2 jours avant le départ. 22h30, je dois boucler mes valises demain. On part après-demain. J'ai de plus en plus peur et hâte à la fois. J'ai fini de passer des tests et de voir différents médecins. C'était amusant, ils sont tous très gentils et m'ont appris beaucoup de choses sur le métier. Mais pour le moment, ma principale préoccupation est pour mes valises. Il faut 15 kilos exactement dans chacune et 3 maximum par personne. C'est dur, mais maman m'aide. Je ne prends que le nécessaire et on m'a dit de prendre des petits flacons de 100 ml pour tout ce qui nécessitait de contenir un liquide, c'est-à-dire gel douche, crème et autres. C'est très strict, mais je trouve ça normal. 9 mars 2039, ou un jour avant le départ. 20h27, ça y est, c'est la veille du départ. On part tôt, vers 7h pour arriver à la station à 8h et décoller à 8h30. On a fait partir nos valises en premier pour les retrouver demain matin dans l'embarcation. Je ne sais pas à quoi elle ressemblera. Dans ma tête, c'est une grosse fusée spéciale pour accueillir des civils. Ou alors un vaisseau très grand. J'ai hâte de voir tout ça demain. Papa m'a dit qu'on va tout m'expliquer quand je serai sur place. 10 mars 2039, ou le jour du départ. 8h25, je suis enfin dans le vaisseau qui va nous amener à notre nouvelle maison. Et c'était bien un vaisseau. Il est très petit, mais ça ne fait rien. On rentre tous. Finalement, on a 2 heures de voyage, et pas 2. On est censé arriver à 10h30. Nos valises sont au fond, et les pilotes sont dans un cockpit, comme pour les avions. Je suis assise dans un siège blanc très confortable, et tout l'intérieur est dans ces tons-là. C'est vraiment beau. L'extérieur aussi est pas mal, tout bleu. On voit que l'esthétique est recherchée. On a une combinaison aussi. Elle est bleue. 10h06. C'était juste énorme. La transition était digne d'un des plus grands manèges de sensations, mais avec des ressentis 10 fois plus forts. C'était époustouflant. Jamais je ne pourrais oublier cette sensation. Maintenant, on vole dans l'espace en direction de la Lune. Moins de 30 minutes de vol. C'est une sensation étrange de se dire qu'on va habiter sur la Lune. 11h. Je suis arrivée depuis un petit quart d'heure. La descente a été dure avec la pesanteur. Ce phénomène physique est incroyable. J'en ai parlé avec le scientifique de l'équipe qui nous accompagnait. Maintenant, on se dirige vers notre nouvelle maison. C'est étrange, la Lune. On la croirait pas comme ça, vue de Terre. Mais c'est beau. Je regarde partout autour de moi. L'équipe avec nous nous explique les différentes stations d'études mises en place pour les scientifiques. Il n'y en a pas beaucoup, mais tous sont habillés comme nous. Je me sentais comme l'une des leurs et mon être entier s'emplissait de fierté. J'ai fait beaucoup de choses depuis mon arrivée. Notre nouvelle maison est belle, bien que bizarre. En fait, de dehors, c'est comme les igloos, mais la matière est spécialement conçue pour l'espace. Cette nouvelle vie est très excitante. Durant cette semaine, j'ai pu assister à différentes expériences, physiques, chimiques et biologiques. Les scientifiques sont très gentils avec moi et m'expliquent tout. J'ai beaucoup appris avec eux. Je pense sérieusement à faire mes études là-dedans. Aujourd'hui, je dois voir une personne pour ma scolarité. Mes parents veulent que je reprenne les cours, mais il n'y a pas d'école alors. Un professeur doit venir à la maison, ils ont vraiment tout prévu. Je viens de rentrer de mon rendez-vous. J'aurai une professeure et elle est très gentille. Elle s'appelle Sophie. J'ai hâte de commencer les cours avec elle. 22 mars 2039, ou 12 jours après l'arrivée. 14h30, j'ai commencé les cours. Sophie est vraiment la meilleure des profs. Elle explique très bien quand je ne comprends pas et me fait beaucoup rire. C'est agréable d'apprendre avec une personne comme elle. 24 mars 2039, ou 14 jours après l'arrivée. 20h23. 2 semaines que je suis sur la Lune. J'avoue que je m'ennuie un peu toute seule. Je suis allée me promener un peu, comme les médecins me recommandent. J'y ai vu un jeune homme, il avait l'air de s'ennuyer, un peu comme moi. J'aurais voulu lui parler, mais on l'a appelé. J'ai pu retenir son prénom. Paul. 27 mars 2039, ou 17 jours après l'arrivée. 3h07. Finalement, la Lune, c'est pas si cool que ça. Je n'ai pas d'amis avec qui parler et seuls les cours rythment mes journées. Sophie a bien vu que quelque chose n'allait pas, mais n'a rien dit. Je n'ai pas revu Paul pour le moment. 13h31. J'ai revu Paul ce matin et je lui ai parlé. Lui aussi s'ennuie beaucoup. Il m'a expliqué qu'il était là parce que son papa est un scientifique qui travaille sur la Lune. Un peu comme mon papa, mais le mien travaille sur la Terre. On est une famille qui sert de test, quoi. Paul m'a dit qu'il était venu avec sa petite sœur, sa mère et son chien. Dans le vaisseau, son chien n'avait le droit que de boire et manger, mais pas de bouger, comparé à nous, humains. 30 mars 2039, ou 20 jours après l'arrivée. 19h40, j'ai revu Paul. Il était avec sa sœur, mais sa mère est vite arrivée pour la chercher. Du coup, on s'est retrouvés seuls. On a parlé de notre ancienne vie sur Terre. Comment elle nous manque. On a tous les deux le même avis. Vivre sur la Lune, c'est bien quelques jours, mais sans personne, c'est vite ennuyant. 2 avril 2039, 21 jours après l'arrivée. Minuit. J'en ai parlé à mes parents. On rentre après-demain. Ma mère aussi en a tassé. Je vais en parler à Paul, mais je crois que je n'ai plus besoin de ce journal.
Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
7, 6.
Commencing countdown, engines on.
3, 2.
Check ignition and may God's love be with you.